Twice of Claude.
Wadia, bonjour Alexis.
Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, on va recevoir Éric Labbé, gestionnaire du projet L'Expédition des Premières Nations.
Oui, j'ai bien hâte. Ça a débuté il y a quelques jours. Il leur reste une semaine. En première partie de l'émission, on va recevoir Gilbert Dominique, qui va nous parler, qui est porte-parole du regroupement Petapan pour le projet d'une négociation d'un traité.
Et qui est le chef de la Première Nation des Pequot. En tout cas, les membres qui habitent de la communauté, nous qui habitent à Mastoyache. Kouai, chef Dominique.
Kouai?
Oui, je m'excuse pour la prononciation. Comment on le prononce comme il faut?
Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est Pequagami, le nom du lac, le Pequagami. Puis on rajoute, là, bien sûr, là, dans notre langue, comment on s'appelle? C'est les Inuits, hein, des Inuits. OK, donc au pluriel, on dit « nuts », donc « pequagami nuts », tout simplement.
Parfait. Check ce matin pour le petit coup. Mais passons au vif du sujet. On a vu dans les médias qu'il était supposé d'avoir une entente de principe entre le regroupement Petapan. Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas qui est le regroupement Petapan, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de ce regroupement-là de communauté Innu?
Oui, absolument. C'est le regroupement de trois communautés là qui, depuis 40 ans, on est en négociation et qui a persisté. Ok, auparavant, la négociation territoriale globale regroupait l'ensemble des communautés Atikamekw et Montagnais, Innu, bien entendu. Oui. À l'époque, là, il y avait une organisation là qui s'appelait le CAM, le Conseil Atikamekw Montagnais, là, qui avait ce mandat de négocier. Et au fil du temps, là, la confiance de plusieurs communautés s'est effritée et plusieurs là ont pris d'autres chemins, ont pris d'autres stratégies. Donc nous, on est trois communautés qui ont continué là dans cette négociation. C'est la communauté de Mashtoviat, située au Pequagami, effectivement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la communauté de Pied-Sipet sur la Côte-Nord et la communauté de Noutachouane. À l'époque, on avait une entente de principe en 2004, entente de principe dont faisait partie également la communauté de Betsiamit, mais Betsiamit s'est retiré là, en 2005 de mémoire.
Merci pour la précision. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voyais dans les nouvelles qu'il était supposé d'avoir une entente entre le regroupement Petapan au plus tard le 31 mars de l'année 2023, puis on est quasiment un an plus tard, j'ai pas vu d'entente signée finalement. Qu'est-ce qui se passe?
Non. Bon, l'année dernière, on avait fait beaucoup d'interventions là auprès du fédéral et auprès du Québec, c'est bien politique, là, pour les engager là dans une démarche avec une date. OK, ça fait 40 ans qu'on négociait. On était rendu tout près là d'un résultat. Il restait encore quelques enjeux névralgiques là à aborder. Et ce qu'on voulait là s'assurer, c'est d'avoir une date, un échéancier à laquelle les gouvernements allaient s'engager. On avait réussi là d'avoir cette date-là et un engagement du premier ministre du Québec, M. Legault, dans le contexte là de la dernière campagne électorale. Donc, il avait affirmé que pour lui, là, c'était une priorité. Il s'engageait, bien sûr, là, à mettre tous les efforts de sa machine là pour faire atterrir un projet de traité là, au 31 mars dernier.
Chef Dominique,
on a convaincu également. Oui.
Chef Dominique, si je me rappelle bien, M. Legault avait même parlé de faire des paix des braves pour toutes les Premières Nations dans les élections de 2018.
Ah, absolument. Il avait mis là la barre haute, puis le fédéral, on a également là imposé ce chéancier-là avec le fédéral. Puis en passant, là, le traité Petapan là, dont il est question, là, c'est la combinaison de deux méga-ententes au Québec. C'est celle de la Convention de la Baie-James et la paix des braves. Donc, c'est de ça que nous négocions présentement là, avec le Québec et le fédéral. Au 31 mars dernier, le fédéral là, a livré la marchandise. On a depuis 40 ans là, une entente entre négociateurs. Là, on a un projet de texte de traité entre négociateurs là, avec le fédéral et, et le regroupement de Petapan. Okay. Cependant, on a constaté là, au cours de l'année dernière, une réticence là, de la part du gouvernement du Québec, un peu de résistance ici et là, et on a constaté effectivement là, que le Québec n'a pas respecté son engagement et se fait toujours attendre pour terminer le processus de négociation. On a même là, des indications là, formelles qu'il tente de revenir sur des éléments cruciaux qui ont été déjà convenus entre négociateurs. Et donc, par différentes stratégies, on tente de venir là, porter atteinte là, à ce que nos négociateurs avaient déjà convenu. Donc, c'est pas facile avec le Québec présentement. Donc, on attend, là, bien sûr, un meilleur engagement de du gouvernement du Québec là, pour s'assurer qu'on puisse terminer là, cet exercice de négociation là, dans les plus brefs délais.
Mais chef Dominique, ici Sophie-Claude Miller, dans le fond, le Québec, ils vous ont donné, est-ce qu'ils ont donné une raison pourquoi ils ne se sont pas présentés? Puis qu'est-ce qu'ils ont dit ou juste?
Ah, je vous dirais là, que c'est il y a plusieurs facteurs, semble-t-il, notamment là, que la machine de l'État ne semble pas suivre la cadence, ne semblait pas être conscient des enjeux. Ils ont été surpris là, de certains engagements de leurs négociateurs. Pourtant, leurs négociateurs faisaient là, sa tournée de chaque ministère pour s'assurer là, que il y a les go pour déposer des offres là, et accepter des offres là, intéressantes. Donc, c'est un paquet de facteurs, je dirais, là, que pour nous, on trouve ça à ce moment-ci là, tout à fait là, inapproprié. Donc, on essaie de convaincre le Québec là, de revenir là, sur leur position de départ, les positions qui ont été convenues et qu'on finalise, bien sûr, cet exercice de négociation au cours des prochaines semaines.
Donc, une rencontre avec le premier ministre Legault serait vraiment ce que vous visez?
C'est assurément là un point névralgique pour nous d'avoir une rencontre avec le premier ministre Legault. Mais je vous dirais, là, on a fait une tentative, à plusieurs tentatives là, depuis la dernière année, et on n'est pas en mesure là, de faire cette rencontre-là, qui, à notre sens, là, nous permettrait d'ouvrir là, certaines portes pour faire avancer là, convenablement la démarche de négociation. Donc, on en est là présentement. On sollicite encore là, une rencontre avec M. Legault
Sentez-vous une volonté réelle du premier ministre Legault de vous rencontrer, mais ce sont juste des obstacles ou vous sentez une certaine réticence de sa part?
Ben, présentement, on sent pas d'ouverture à ce moment-ci. On nous mentionne là différents facteurs, différentes raisons. Mais nous, on estime là, qu'une rencontre au plus haut sommet devrait permettre là, de dénouer là, les différentes impasses à laquelle on est confronté présentement.
Mm-hmm. Parce que...
J'ai suivi l'actualité par rapport à ce traité-là, puis avec la contestation du gouvernement du Québec relativement à la loi C-92, donc la loi sur les services aux enfants, et famille, Première Nation, Inuit et Métis. Il y a cette contestation-là par rapport au, notamment, des arguments, c'est que les droits ancestraux, puis qui comprendraient, entre autres, le droit à l'autonomie gouvernementale, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, selon cette loi-là, puis qu'est-ce que la Cour d'appel en dit. On attend de voir qu'est-ce que le jugement va dire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un des éléments que vous avez pris en compte puis que vous pensez que le gouvernement du Québec veut voir qu'est-ce qui va se passer sur ce plan-là?
C'est notre lecture. C'est clair que on pense effectivement, mais on nous affirme le contraire, que ça n'a pas de lien, là, mais nous, on doute un petit peu là, de cette affirmation-là. On est convaincus qu'ils attendent le jugement qui pourrait là donner des indications pour la suite en matière effectivement de reconnaissance de notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Ça, c'est pas un problème là par rapport au Québec. Le plus gros problème à ce moment-ci à laquelle on fait face là, puis on essaie de trouver des solutions, c'est que le Québec là ne veut pas reconnaître le droit inhérent à notre propre autodétermination. Donc nous, on dit, regardez là, on est un peuple là qui s'est gouverné depuis des millénaires. Donc, inévitablement, c'est pas un droit là, que le Québec ou un quelconque gouvernement que l'autre va nous donner ce droit-là. Là. Donc, on est dans ce genre de débat. Et ça, je pense qu'effectivement, là, il y a un lien à faire avec la contestation et l'attente du jugement.
Chef Dominique, est-ce que vous trouvez ça pas paradoxal qu'un gouvernement qui se dit nationaliste, qui veut défendre les intérêts d'une nation, d'une petite nation dans un bain anglophone en Amérique du Nord viennent dire à d'autres nations avec qui ils traitent qu'il n'y aurait pas le droit à cette autodétermination-là?
Bon, absolument. Moi, je trouve que c'est paradoxal. Absolument. Je pense que le Québec, le gouvernement actuel aurait avantage, effectivement, là, à démontrer une ouverture de s'entendre, là, et de reconnaître, là, nos droits, y compris celui à l'autodétermination, pour nous accompagner. Puis, si jamais, effectivement, là, ça chemine, puis qu'on voit que les résultats sont intéressants, ça va juste démontrer, là, que le Québec, puis les partis plus nationalistes sont prêts aussi à reconnaître, là, effectivement, ce qu'ils recherchent. Là. Donc, en matière de reconnaissance d'un pays ou de tout ça, là, fait que nous, on a un petit peu de la difficulté, là, à bien cerner, là, cette dimension-là, là, dans l'actuel gouvernement.
Oui, parce qu'on sait bien qu'il y a une grande partie du territoire québécois qui, en fait, est un territoire autochtone. Donc, la souveraineté sans nous, ça serait impossible, je pense.
Ben, absolument, absolument. Puis moi, je pense que ce que le traité là pourrait apporter, c'est cette certitude juridique, autant pour les Premières Nations que pour le gouvernement et le peuple québécois, cette certitude juridique là qui pourrait, après ça, là, nous permettre, nous, bien entendu, là, de s'assurer là que nos droits soient respectés. Et d'autre part, permettre là aux Premières Nations et au gouvernement et à toutes les régions de pouvoir là mieux envisager là l'avenir du développement là de nos régions, de nos territoires là dans un contexte de partenariat, de collaboration. C'est ça que le traité va apporter là comme dividende.
Et puis, il y a probablement dans le traité en tant que tel, que, peut-être pour ceux que, quand on parle du droit à l'autodétermination, je présume, ben, c'est le droit d'exploiter les ressources naturelles, d'avoir les propres infrastructures comme pour l'éducation,
ouais.
Les services sociaux.
C'est le droit de disposer de nous-mêmes, hein, comme peuple, de prendre des décisions là qui sont les nôtres, de prendre nos propres décisions, de les assumer. Au profit là des membres de notre collectivité dans différents niveaux. Donc c'est ça effectivement là que le traité aspire.
Puis quelle différence ça ferait le fait d'être comme là en ce moment, quelle différence positive, parce que je présume que ce serait une différence positive que ça apporterait le fait de gérer toutes ces instances-là. Comment vous voyez ça, vous?
Ben tout d'abord c'est qu'on va s'éloigner là sur à mon sens personnellement, l'effet le plus dévastateur là chez les Premières Nations à travers le pays, c'est le phénomène de dépendance. Hein. Le phénomène de dépendance, on nous a rendu dépendants là à une autre société. Puis dans cette stratégie-là, on a fait là en sorte qu'on a atténué notre lien avec le territoire et ses ressources. C'est comme ça que pendant des millénaires, là, nos ancêtres là, ont cheminé là, sur le territoire. Donc, le traité, ce que ça va nous ramener, ça va nous permettre, là, parce que le traité, je le dis souvent, c'est aussi, là, et avant tout, là, un méga coffre à outils. Okay? Oui, effectivement, on va convenir là, qu'on va pouvoir, nous autres, légiférer là, dans certains domaines, prendre des décisions dans certains domaines, mais ça va, avec le traité, on va avoir là, des moyens financiers, notamment, pour mettre en œuvre ces législations qu'on va se donner dans plusieurs niveaux. La sécurité de nos enfants, c'en est un. Par rapport à la DPJ, par exemple, notre propre régime, la sauvegarde de notre langue, la protection là, de notre mode de vie, etc. Là, il y en a plusieurs là qu'on pourrait là énumérer. Là. Mais l'éducation, c'en est un autre également. Donc, on va avoir des moyens, okay, pour mettre en œuvre, bien sûr, nos propres législations.
C'est vraiment très intéressant. On va faire une courte pause musicale, chef Dominique, et ensuite, on va continuer l'entrevue après.
Okay.
Donc, pour la musique, on va aller avec J25, J25 en bon français, avec la chanson Indigenous. Alors, on écoutait J25 avec la chanson Indigenous. J25 est membre de la nation Chickasa aux États-Unis. Alors, on est de retour avec le chef
Dominique.
Oui.
Oui, chef Dominique. La logique habituelle des traités nous amène à une extinction de nos droits ancestraux. Est-ce que c'est un peu cette logique-là aussi qui est mise de l'avant dans le potentiel traité Peterbien?
OK, non, pas du tout, pas du tout. Là, pour nous, là, quand on a commencé à négocier là, depuis plusieurs années, on a eu, là, bien sûr, quelques principes. Hein, puis, dans l'entente de principe qu'on a ratifiée en 2004, puis à ce jour, c'est la seule entente qui comporte là, une clause de reconnaissance de nos droits ancestraux, y compris le site aborigène, sur l'ensemble de notre territoire ancestral. OK? Cependant, ce qu'on fait, là, c'est qu'on s'entend. OK? Ça, c'est jamais remis en question, mais on s'entend sur les modalités d'exercice de nos droits et dans un contexte là, de partenariat, de collaboration, d'harmonisation. Donc, c'est la grande différence. Okay? Donc, on a, bien sûr, un processus de reconnaissance de nos droits. On a, je vous dirais, là, dans cette lignée-là, quelque chose qui est intéressant, puis que moi, je pense, là, qui inspire, puis c'est tout à fait novateur, c'est qu'on a un traité également là, qui va être évolutif. Okay, donc ça, c'est rassurant. C'est comme on a débattu ça longtemps, puis c'est le seul traité là, présentement là, qui est dans cette façon de faire là, présentement à travers le pays. Donc, puis, qui est évolutif à l'image d'un arbre vivant, OK? Et que cette évolution-là, la déclaration de la reconnaissance des peuples autochtones là, par l'ONU va nous servir de guide. OK, donc c'est assurément là c'est plus sécurisant, je vous dirais, là, pour la suite des choses. Donc, on ne tombe pas dans un traité là, tout d'abord, qui va éteindre les droits, au contraire, on est là dans un contexte de reconnaissance. Et on va tomber également dans une démarche où on va être capable de la rendre évolutive là, pour la suite des choses.
On sort un peu de la logique où on cristallise nos droits ancestraux dans le passé, un peu comme l'arrêt Van Der Piet vient dire. C'est au moment de la colonisation, au moment du contact avec les Européens, on comprend dans ce traité-là que nos sociétés évoluent puis vivent aujourd'hui en 2024.
Oui, absolument. Puis pour nous, c'était une condition qui était là essentielle. Puis ça c'est intéressant effectivement là. Puis c'est plus sécurisant, je vous dirais, là, pour la suite des choses.
Parce que ça s'est jamais vu encore un traité où on n'éteignait pas les droits ancestraux en échange du traité.
Non, effectivement, c'est
Ce
du
serait une
jamais vu.
première?
Je ne sais pas si c'est une première parce que la politique fédérale là, elle a évolué également. Ce que je comprends là, c'est que semble-t-il que c'est plus possible d'éteindre les droits des Premières Nations versus un traité. Par contre, on s'entend là que il y a assurément des modalités ou des textes qui font en sorte qu'on puisse y venir porter atteinte là quand même de façon importante. Donc, nous, on essaie là, d'assurer là, une zone où on va être confortable avec ça. Présentement, on a une zone qui nous satisfait, qui nous sécurise.
Je peux pas passer à côté de ça parce qu'on le voit aussi dans l'actualité. Il y a des membres de vos communautés qui ne sont pas nécessairement en accord et puis qui ont peur justement qu'on éteigne les droits ou qui viennent dire que peut-être les conseils de bande n'ont pas la légitimité pour faire ce genre de traité-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces membres-là qui.
Ah ben, c'est tout à fait normal, hein. Il y a des gens qui sont inquiets, qui ont hâte de voir les textes. Hein. Nous, ce qu'on s'est engagé là, on a fait bien sûr là, jusqu'à ce moment-ci, quelques résumés pour déjà partager un peu l'essentiel là des textes convenus, particulièrement avec le fédéral. Donc ça, c'est disponible pour les membres de ma Première Nation, bien entendu, parce qu'on a une clause de confidentialité comme toute négociation là avec les gouvernements, mais ça ne nous empêche pas de nous là livrer là le message à notre population. Puis oui, il y a des gens qui sont bien sûr là grandement préoccupés, puis avec raison, là. Donc l'objectif, nous, c'est de rendre tantôt les textes là, disponibles pour que chacun des membres de notre communauté puisse là se faire une idée elle-même d'appréciation là et de questionner les dirigeants là pour les éventuels impacts. Donc nous, on va bien sûr être transparent là-dedans. On rend ça disponible. On va même faire des analyses là parce que c'est un choix que chacun des membres de ma communauté va éventuellement prendre là, des analyses avec qu'est-ce que ça va être quoi les avantages d'un traité là, et versus, par exemple, de rester sous la loi sur les Indiens. Ça, c'est quoi les différences là, à ce niveau-là? Donc, on veut donner le temps là, à notre population là, de bien analyser ça et éventuellement de se faire une tête et, en bout de piste, de prendre une décision.
Ça va être quoi le processus de ratification par la suite des résolutions des conseils de bande quand vous allez avoir signé le tout avec les
Oui, ben,
gouvernements?
oui, absolument. Ben, présentement, on est, nous, déjà en discussion, en information avec nos populations, OK? Même si on n'a pas encore de projet de traité là, convenu avec le Québec, donc on a quand même là, convenu là, dans nos communautés là, qu'on adressait là, l'état de situation, les informations à nos populations. Ça, c'est déjà commencé depuis là, quelques mois. Dès qu'on a, bien sûr, là, en espérant que le Québec là, s'active et soit au rendez-vous, dès qu'on a un projet de traité là, dans son ensemble et qu'on l'a représenté à la population, il va y avoir une phase là où chacun des conseils va venir donner l'autorisation aux négociateurs de paraffer l'entente. Ça, c'est une première étape. OK? Donc, de paraffer l'entente. OK? Ça, c'est une étape qui est importante parce que ça fait en sorte qu'on vient cristalliser le texte. Et s'il arrive un nouveau gouvernement là, qui voudrait venir, là, qui ne fait pas son affaire, qui voudrait venir porter ombrage là-dessus, il ne pourra pas. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Un coup que cet exercice-là est fait, on tombe après ça en consultation là, avec la population qui va nous amener vers un référendum parce que c'est le peuple.
Ah oui, ça va être jusque-là. Donc, il va y avoir une grosse décision démocratique de la part d'une majorité des membres. Okay.
Absolument, absolument. Donc, c'est le peuple qui décide. C'est pas chacun des conseils là, qui a cette autorité-là.
Ce traité-là offre des solutions pour le futur. Est-ce qu'il y a des réparations pour les torts causés dans le passé?
Absolument. Hein. C'est clair que c'est en très grande partie assumé par le fédéral. Il y a, là, puis ça se calcule là, je vous dirais, là, à plus du milliard de dollars pour les dommages passés là, au niveau. Et ça, c'est la partie là, du Canada. Il nous reste bien sûr là, à négocier là, la partie du Québec, notamment là, tout le développement énergétique au niveau des centrales, de la capacité énergétique installée sur nos territoires. Là-dessus, là, il y a des discussions également là, à finaliser là, avec le Québec.
Puis rappelons-nous que tout ce développement-là a été fait sans jamais même demander l'avis des Inuits. Hein?
Absolument.
On parle de développement économique. Il y aurait des importantes mesures financières qui pourraient s'élever jusqu'à 2 milliards.
Bon, nous, présentement, moi je pense que le deal final, là, si on le projette sur un horizon là, d'une génération, deux générations, 20-25 ans, là, on va facilement là, avoir une entente là, qui va passer là, de 2 à 3 milliards facilement, je vous dirais. Okay? Okay. Parce qu'il y a des mesures économiques. Là. Il y a par exemple, là, il y a un partage des redevances qui est prévu. Donc, si chaque année, là, on calcule ces millions-là sur une vingtaine d'années, ça donne des montants là, appréciables. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a présentement, effectivement, là, un engagement là, du fédéral. Je vous dirais là, que présentement, là, pour les compensations passées, là, qui tournent autour de 1,5 milliard, qui génèrent déjà des revenus parce qu'il y a un engagement là, à ce niveau-là. Donc, ça peut arriver que si le traité est signé d'ici un horizon de 4, 5, 6 ans, là, qu'on dépasse juste avec la part du fédéral là, en fonds de dotation là, les 2 milliards.
Chef Dominique, on vous dit un gros tchécosmeton pour votre temps et les explications. C'était fort intéressant aujourd'hui. On vous souhaite quoi pour 2024?
Bon traité.
Un traité.
Un traité qu'on a l'occasion de présenter après 40 ans à notre population. C'est ça qu'on s'est engagé. Après ça, on va prendre le temps avec notre population de le décortiquer, de l'analyser puis de l'apprécier.
Puis une rencontre avec le premier ministre Legault.
Oui, c'est
sûr. Tu n'es
comme une. Tu n'es comme
une. Yout.